C'est très difficile d'être dans cet amphithéâtre sans faire un petit speech. Et donc, je me sens obligé, un speech totalement inutile, pour vous présenter non pas ni la troupe que maintenant beaucoup de gens connaissent, ni le type de prononciation historiquement informée, de jeu historiquement informé, parce que tout le monde le connaît et ceux qui ne le connaissent pas poseront les questions nécessaires après, ce serait trop long avant. Je veux juste dire quelques mots sur cette pièce qui est original au point que je la connaissais bien pour l'avoir lue, pour l'avoir éditée, pour l'avoir commentée, et l'avoir jouée fait découvrir que Molière est un homme absolument extraordinaire qui est capable de concevoir des machines extraordinairement huilées. Et il faut savoir que cette pièce, on a la chance d'avoir pu reconstituer en partie les jeux de scène parce qu'elle a fait l'objet d'une édition pirate à peine créée. C'était la deuxième petite comédie de Molière après Les Précieuses Ridicules. Molière était en train de devenir une star dans Paris. Et à peine créée, elle a fait l'objet d'une piraterie. Un éditeur, qu'on appelait un libraire à l'époque, a envoyé des tachygraphes dans la salle pour prendre en note la pièce. Il a publié de son côté. Mais pour faire passer la supercherie, il a accompagné la pièce, il a publié. Elle était affichée sous le nom de « Le cocu imaginaire ». Il a pris un privilège d'impression sous le nom de « Ce canarelle » avec les arguments de chaque scène. À la chancellerie, on n'y a vu que du feu. Et finalement, il a publié le livre « Ce canarelle » ou « Le cocu imaginaire » avec les arguments de chaque scène. Et l'avantage des arguments de chaque scène, c'est qu'il décrit très exactement les jeux de scène dans la scène. Et il nous apprend ainsi que Molière vient d'inventer un nouveau type de personnage et donc un nouveau type de jeu qui révolutionne le jeu comique, c'est-à-dire qu'il se met à jouer non plus avec le petit masque à l'italienne de mascarille, comme son nom l'indique, mais désormais un visage découvert, masqué, non plus masqué, mais démasqué, donc grimé, imitant le plus célèbre acteur italien de l'époque qui s'appelle Scaramouche, qui était un mime, et il reprend au mime Scaramouche ces grimaces qui expriment les émotions, et c'était la première fois qu'on avait l'idée d'accompagner le discours comique de grimaces qui accompagnent les émotions. Et de ce moment-là, Molière invente un personnage, invente un jeu grimacier, évidemment pour lequel il va être attaqué, mais surtout, il va être applaudi, et sa carrière, définitivement, est lancée à partir de ce moment-là. Deuxième chose, il invente ce personnage de Sganarelle qu'on va retrouver de pièce en pièce, il y a 3-4 pièces derrière qui vont suivre, qui est non pas comme le Sganarelle le plus connu qui est celui de Don Juan, qui est un bouche-trou, trop long à expliquer pourquoi Don Juan est un bouche-trou, une œuvre qui n'intéressait absolument pas Molière, alors qu'aujourd'hui c'est l'œuvre philosophique par excellence. À part ce Sganarelle-là, tous les autres qui apparaissent sont des bourgeois rétrogrades qui représentent l'antithèse même de ce que l'on aimait dans les salons galants, c'est-à-dire l'éducation des femmes, l'égalité des hommes et des femmes, la conversation, la délicatesse, l'élégance. Et évidemment, dans les salons, on parlait tout le temps de quelque chose de fondamental qui était le mariage, la jalousie et donc le cocuage. Et donc le thème de cette pièce qui porte sur le cocuage n'est évidemment pas un sujet farcesque issu du Moyen-Âge, mais est au contraire en prise avec ce qui était à l'époque le principal public de Molière, c'est-à-dire le public de la cour, des salons. Et c'est ce public-là qui va applaudir cette pièce et qui va découvrir ce bourgeois rétrograde qui s'appelle ce Sganarelle, c'est-à-dire celui qui se trompe lui-même parce qu'il prend les apparences pour la réalité et qui désormais va ouvrir la voie, non seulement évidemment aux autres Sganarelles, mais à Arnolphe, à Argan, à Orgon, qui sont tous des aveugles sur eux-mêmes et sur le monde et qui fondent une des particularités de la dramaturgie de Molière, joint au fait que vous allez voir ce Sganarelle. Il est en train d'occuper la quasi-totalité de la pièce. Et quand on connaît la dernière comédie de Molière qui s'appelle, comme chacun sait, Le malade imaginaire, au bout du compte, il n'était pas si imaginaire que ça, eh bien, on s'aperçoit que Molière occupe sur 31 scènes, 29 scènes présents en scène. Et là, on comprend d'où ça vient, cette révolution comique qui fait que le personnage ridicule est en train de passer au centre de l'action et des regards. Et je vous souhaite d'avoir les meilleurs regards possibles pour ce spectacle.
Ah, soutiens-moi.
Madame, d'où vous pourrez venir? Ah, mon Dieu, mais le pâme! Et vite, on a quelqu'un!
Qu'est-ce donc? Me voilà!
Ma maîtresse se meurt!
Quoi? Ce n'est que cela? croyez tout perdu de prier de la sorte. Mais approchons pourtant. Madame, êtes-vous morte? Aïe, c'est le Timot.
Je vais faire venir quelqu'un pour l'emporter. Veuillez la soutenir.
Elle est froide de partout et je ne sais qu'en dire. Approchons-nous pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas, mais j'y trouve encore moins quelques signes de vie.
Oh, qu'est-ce que je vois? Mon mari dans ses bras! Mais je m'en vais descendre, il me trahit sans doute et je veux le surprendre.
Il faut se dépêcher de l'aller secourir. Certes, elle aurait grand tort de se laisser mourir. Aller en l'autre monde est très grande sottise, tant que dans celui-ci l'on peut être de mise.
Quel est le rapport entre les vérités et les légendes chez Molière? Tout ça, ça vient en fait de l'origine de la vie de Molière telle qu'elle a été racontée au début du XVIIIe siècle par celui qui s'est présenté comme son premier biographe. Cet homme, Jean-Léonore Gallois de Grimaret, qu'on appelle Grimaret, a publié en 1705 une vie de Molière dont Boileau a dit tout aussitôt que ce livre ne valait rien, qu'il était bourré d'erreurs et qu'il ne sait même pas des choses que tout le monde sait. Et pourtant, ce livre, il a continué, en fait, il s'est mis à irriguer la plupart des, ce qu'on appelait à l'époque des vies, puis des biographies. Et ce, alors même qu'au XIXe siècle, sont apparus les premiers archivistes, les premiers historiens archivistes qui se sont mis à chercher donc dans les archives en France, à Paris, en province, qui ont commencé à chercher Molière dans ses pérégrinations. Et grâce aux archives, ils ont réussi progressivement à découvrir beaucoup de choses. Et grâce à ces archivistes, qui ont même créé une revue à la fin du 19e siècle qui s'appelait le Moliériste, c'est pour ça qu'on les appelle les Moliéristes, tous ces gens-là, grâce à eux, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils ont confirmé ce qu'avait dit Boileau, qui avait très bien connu Molière, ils ont confirmé ce qu'avait dit Boileau, à savoir que tout chez Grimaret est faux. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, quiconque veut savoir la vérité sur Molière se retourne vers Grimaret. Et donc, il veut savoir la vérité sur Molière, et il tombe sur la légende. Même le film, le roman célèbre de Bulgakov, le roman de Monsieur de Molière, est irrigué par ce livre initial de Grimaret. Le film de Mnouchkine, qui lui-même s'inspire à la fois de Bulgakov et de d'autres biographes, eh bien, il remonte aussi, il reprend des éléments de Grimaret, du type, les éléments les plus célèbres, c'est par exemple que pourquoi Molière devient comédien, parce qu'il avait un grand-père qui, à la différence de son père, qui était sévère parce que ce n'était qu'un tapissier valet de chambre du roi, qui voulait que son fils devienne tapissier valet de chambre du roi, le grand-père, lui, il était débonnaire comme tous les grands-pères, il emmenait le petit Molière voir les comédiennes de l'hôtel de Bourgogne, et c'est ça qui, évidemment, et tout ça, c'est totalement inventé. D'abord, Grimaret se trompe sur le nom de ce grand-père, il lui donne le nom du futur beau-frère de Molière, donc il se trompe de nom. Il se trouve que ce grand-père, il est lui aussi tapissier, fils de tapissier, enfin marchand tapissier, c'est-à-dire l'équivalent de décorateur aujourd'hui. Hein, ils étaient dans le haut de la caste des artisans marchands. Fils de tapissier, petit-fils de tapissier, père de tapissier, oncle de tapissier, on ne voit pas pourquoi il aurait été plus, comment dirais-je, léger que son propre gendre, le père de Molière, vis-à-vis du théâtre, etc. etc. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, tout est faux, tout est inventé, mais ça marche bien parce que il se trouve que il y a deux choses qui sont caractéristiques de cette première vie. C'est, d'une part, que c'est l'aboutissement de la tradition des vies qui remonte à l'Antiquité. Une vie, C'est un genre rhétorique qui remonte, qui relève d'un genre rhétorique qui est l'éloge. Et donc, en tant que genre d'éloge, comme les oraisons funèbres, etc., eh bien, on retient de son héros les hauts faits de son héros, véritables ou supposés. Et quand il faut ajouter des éléments un peu personnels, et au XVIIIe siècle apparaît le goût de la petite histoire, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des anecdotes. Quand on n'en trouve pas, on les invente. Et pour donner une vie qui paraisse, qui fasse écho à ce qu'attend le lecteur de ses vies, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On ignore tout de Molière. Grimaret ignorait tout de Molière. Mais qu'est-ce qu'il fait pour faire vivre Molière et faire parler Molière? Il va chercher dans les pièces de Molière des éléments qu'il prête à Molière. Et il fabrique ainsi, et ça c'est déjà les vies depuis l'Antiquité, hein, c'est déjà le système. En fait, un système absolument circulaire, puisque pour faire penser et parler dans ses vies le héros de la vie, on va chercher dans son œuvre des éléments prononcés par les personnages qu'on lui prête, comme si c'était ses propres pensées et ses propres paroles, et ensuite les gens qui vont venir après, qui vont vouloir interpréter les œuvres de cet auteur-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se servir de la vie pour interpréter les œuvres. Or, la vie, elle a été fabriquée à partir des œuvres. Et donc, on est en présence d'un système circulaire de serpent qui se mord la queue. Et pour Molière, ça a été ça qui s'est passé. On ne savait rien sur Molière. 30 ans après, il se trouve que une quinzaine d'années après la mort de Molière, il y a eu un roman, c'était à la mode à l'époque, des nouvelles diffamatoires. C'est-à-dire qu'on prenait un personnage qui avait vécu et on le faisait arriver les aventures les plus rocambolesques possibles, légères possibles. Et cette pauvre Armande de Béjart, dite Mademoiselle Molière, donc l'épouse de Molière, après la mort de Molière, eh bien, a été 10 ans après la mort, 15 ans après la mort, a été victime d'un roman de ce type, dans lequel elle passe pour une femme coquette, légère, qui a rendu jaloux son mari. Et qu'est-ce qu'on fait pour exprimer la jalousie de son mari que l'on fait parler dans ce livre? Il s'appelle La fameuse comédienne ou Les aventures de la Guérin, veuve de Molière. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour faire montrer les émotions jalouses de Molière? Eh bien, on va prendre dans le Misanthrope de Molière des passages dans lesquels Alceste exprime sa jalousie et on les prête à Molière. Et ensuite, évidemment, Grimaret, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose, il va s'inspirer en partie de ce roman et il va prendre des éléments dans les pièces de Molière. Et qu'est-ce qu'on va découvrir en suivant Grimaret? Que Molière était jaloux et que c'est pour ça qu'il a écrit le Misanthrope dans lequel il montre un Alceste jaloux. Voilà l'état des lieux. Et il se trouve que, pour quelle raison ça a existé ça? Bien, tout simplement parce qu'on n'a rien conservé de Molière. Il a eu la malchance d'avoir 4 enfants dont 3 sont morts et la quatrième, c'est une fille qui a grandi dans un couvent comme faisait une grande partie de la haute bourgeoisie. Après, ils sortaient, on les mariait, mais celle-là, elle est restée jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle s'est mariée un peu plus tard avec un organiste d'église, c'est-à-dire elle était dans un milieu où on ne voulait pas entendre parler de théâtre, qui était un art qui empoisonne les âmes. Elle ne voulait plus rien savoir de ce qu'avaient rendu son père et sa mère célèbres. Et donc, du coup, à sa mort, les papiers qui avaient pu subsister chez elle, eh bien, tout a disparu. Et il se trouve que Grimaret, en inventant des anecdotes, il donne une sorte d'épaisseur, d'intime à Molière. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque les moliéristes du XIXe siècle ont démontré point par point que tout ce qu'il racontait était faux et ont donc rétabli une forme de vérité en établissant des éléments certains, eh bien on a continué à essayer d'harmoniser ça avec Grimaret parce que Grimaret paraissait non seulement avoir écrit la vie de Molière, mais faire partie de la vie de Molière, puisqu'il prétendait rapporter des paroles de Molière et des sentiments de Molière que, sans lui, on n'aurait jamais connus. Évidemment, on ne pouvait pas les connaître, puisqu'il les a inventés. Mais voilà. Et c'est ça qui explique le fait que, jusqu'à une époque récente, ont perduré des visions stéréotypées, des images fausses, des interprétations erronées, et des légendes sur Molière. Par exemple, le fait que... J'ai parlé tout à l'heure de la légende du grand-père Débonnaire, mais il y a la légende de Molière jaloux. avec une femme coquette, il y a la légende de Molière mort en scène, etc., etc.
Je ne m'abuse point, c'est mon portrait lui-même.
C'est homme curieux.
Ma surprise est extrême.
À qui donc en a-t-il?
Je veux accoster. Puis-je? Eh, de grâce, un mot.
Que me veut-il conter?
Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait de dans vos mains trouver cette peinture?
D'où lui vient ce désir? Mais je m'avise ici. Ah! Sa surprise à présent n'étonne plus mon âme. C'est mon homme! Ou plutôt, c'est celui de ma femme!
La fin du malade imaginaire, puisqu'il meurt à l'issue de la quatrième représentation du malade imaginaire, le 17 février 1673, il parle d'un hoquet qu'il aurait dissimulé dans un éclat de rire, etc. Et après, ce hoquet, eh bien, ça devient un hoquet mortel. Et au XVIIIe siècle, on imagine que Molière est mort. Et ça s'est renforcé, en fait, dans le fait que même si les gens lisaient quelque part qu'il était mort entre 9h et 10h du soir, dans la mesure où on s'est mis à jouer le soir, donc ça paraissait naturel que Molière soit mort en scène à la fin de la représentation. Au XVIIe siècle, les séances étaient affichées à 14h, commençaient à 14h, enfin à 14h30, à 15h, on attendait que la salle se remplisse, mais il fallait absolument finir avant la nuit tombée, puisqu'on est en février en plus, donc les journées étaient courtes, parce qu'il ne fallait pas que les spectateurs s'en aillent dans les rues obscures, qui étaient des coupes-gorges à cette époque-là. Et donc, du coup, vous voyez, le fait que Molière soit mort à 10h du soir, si on sait ça, et qu'on sait que la pièce a dû finir dans les 5h30 de l'après-midi, ou 6h au plus tard, encore je vous dis, en février, ça devait être plus tôt, eh bien, on comprend très bien qu'il est mort 4 heures après. Mais lorsqu'on arrive à une époque où les représentations se font de plus en plus souvent et presque systématiquement ensuite en soirée, eh bien, s'il est mort à 10h du soir, il est mort sur scène. Voilà comment se fabriquent, vous voyez, des légendes non vérifiées, entérinées, et alors même que les documents existent. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est, à la différence de tous mes prédécesseurs, qui ont essayé de dialoguer avec Grimaret, disant qu'il y a certaines anecdotes, sans doute, qui sont à prendre en considération parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai beaucoup travaillé, déjà j'avais fait une biographie de Racine, et j'avais déjà regardé justement les anecdotes racontées par le fils de Racine, qui a été le premier à faire une biographie, une vie de son père, au milieu du XVIIIe siècle. Je m'étais rendu compte qu'il y avait des anecdotes qui reposaient sur rien, qui étaient totalement inventées, que la plupart même sont totalement inventées, et que l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est une fausse idée, en fait. Et donc, j'ai décidé, du coup, au lieu d'établir une sorte de dialogue avec la meilleure biographie qui existait jusqu'à ces dernières années, elle date de 1997, c'est une biographie écrite par Roger Duchesne, qui s'appelle Molière, publiée chez Fayard, et quasiment chacun de ces chapitres commençait par « Grimaret a dit qu'il raconte », ou des fois il dit pas « Grimaret a dit », mais « Molière aurait fait ceci, ceci, etc. » Et après il dit « bon, c'est probablement pas vrai, parce que, etc. » Il dialogue avec Grimaret comme si on n'arrivait pas à couper cet arbre où était la vie de Molière de cette sorte de branches-là qui contaminent en fait toute la perception de Molière. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire j'ai décidé de faire table rase, et pour ça j'ai été aidé par les mêmes documents que mes prédécesseurs, parce qu'on n'a pas découvert grand-chose d'autre. Ma démarche, elle est nouvelle pour des raisons que je vais expliquer ensuite, c'est-à-dire sur la dimension archéologique du rapport à la création de Molière. Mais des documents, on a des gazetiers qu'il faut examiner attentivement, et c'est là par exemple qu'on s'aperçoit aussi qu'une légende selon laquelle Molière est mort quasiment de tuberculose, eh bien elle est totalement fausse. Molière est mort d'une infection pulmonaire en février 73, et on a des témoins qui disent, un correspondant de la Gazette d'Amsterdam, il est mort mais si rapidement qu'il n'a presque pas eu le temps d'être malade. 3 mois plus tard, le plus grand critique de l'époque, qui s'appelle Jean Chaplin, écrit à un ami de l'université de Padoue, le professeur Ferrari. Il lui raconte qu'il le félicite d'être sorti de cette toux et fuction qui nous a tant tués de gens cet hiver à Paris. Il ajoute que nous, hommes publics, nous échauffons les poumons et donc nous sommes plus sujets à la toux et à la fuction que beaucoup d'autres. Et encore une fois, je suis heureux que vous soyez sortis de cette toux qui nous a emporté notre Molière, le Plaute et le Terence du XVIIe siècle, en sa dernière action, c'est-à-dire à un moment où il était en train de jouer sa dernière pièce. Non pas au moment même, mais à l'époque, durant la période où il jouait sa dernière pièce. Et donc, tout indique que Molière est mort d'une infection pulmonaire, qui à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien, donc on avait 2 chances sur 3 de mourir. Et ça, c'est confirmé par les gazetiers. Mais il se trouve que les médecins du 19e siècle, pour qui un génie devait être physique, ou pas, ou n'était pas un génie, ils ont lu chez les gazetiers que Molière était tombé malade en janvier-février 1665, puis qu'il était retombé malade au printemps 66. Ils ont dit, première atteinte du mal, rechute, et désormais Molière va s'effilocher progressivement, ronger du dedans par la tuberculose qui va couronner son action en février 1673. Mais il se trouve qu'ils se sont servis de 2 éléments de gazetiers sans se rendre compte que Molière, c'était une star constamment sous les yeux des gazetiers. On rendait compte de ce qu'il faisait, de ses pièces, de ses créations, etc., etc. Et que lorsqu'il était malade, on le disait. Mais il a été malade 2 fois en 65-66, après il n'est plus jamais malade. Par contre, on continue à parler des autres qui sont malades, tel comédien qui est malade, Armande Béjart, l'épouse de Molière, qui tombe malade en 1672, qui reste éloignée de la scène pendant 3 semaines. Tout ça, c'est raconté. Comme par hasard, pour Molière, c'est plus raconté. Et alors que, j'ai encore une fois, grâce aux gazetiers, on arrive à voir le statut qu'a acquis Molière, et c'est le premier artiste à être autant regardé par cette littérature people, là, l'ancêtre de cette littérature people, que sont les auteurs des gazettes en vers de l'époque. Donc on a les gazettes en vers, on a un document exceptionnel qu'on a appelé le registre de Lagrange, et dont on a cru à tort depuis quand on l'a découvert au 19e siècle, qu'on croyait que c'était le comédien Lagrange qui prenait des notes jour le jour. En fait, le comédien Lagrange, 10 ans après la mort de Molière, il a envisagé, il s'est dit que lorsqu'il prendrait lui-même sa retraite, il écrirait une histoire de la troupe. Il a donc pris tous les registres de comptes du théâtre et il les a recopiés, c'est-à-dire que là où un registre de comptes a une page par représentation dans lequel il donne le détail de du titre de la pièce, l'auteur, la recette, la division en nombre de parts qui revient, donc la part qui revient à chaque acteur, les frais ordinaires qu'il détaille, les frais extraordinaires. Lui, Lagrange, il a pris une ligne, le titre de la pièce et l'auteur, la recette globale, la part qui revient à chaque acteur, et c'est tout. Mais grâce à ça, on a évidemment le suivi de toutes les créations faites par la troupe de Molière depuis 1659 jusqu'à sa mort. Et au-delà, mais nous on s'en fiche, puisque une fois qu'il est mort, le reste du registre il nous intéresse moins. Et donc on sait exactement quelles pièces la troupe a jouées, quels ont été les succès des pièces, une légende selon laquelle le bourgeois gentilhomme, le misanthrope a été un échec à la création, etc. C'est absolument faux, le registre de Lagrange nous donne les recettes, et on s'aperçoit que les 2-3 premières séances sont excellentes, après ça baisse, mais il faut savoir pourquoi. Et grâce... cette fois-ci, aux gazetiers, aux historiens, aux mémorialistes du temps, on sait quoi ? On sait que toute la cour a suivi Louis XIV à Fontainebleau, et que donc, on est au début de juin, que la cour est partie plus tôt que prévu à Fontainebleau, et que, comme on le disait au XVIIe siècle, Paris est désert, c'est-à-dire au sens où le public principal de Paris, qui est l'aristocratie de Molière, qui est l'aristocratie de la cour et l'aristocratie des salons, et bien une grande partie est partie. Et malgré ça, c'est un succès. Donc vous voyez qu'on a un deuxième élément qui nous permet d'essayer d'établir des vérités, c'est le registre de Lagrange. Donc on a des correspondances, on a des mémoires, et tout ça nous permet d'essayer d'approcher au plus près des éléments réels de la vie de Molière. Alors évidemment, il n'y a pas d'intime, puisque, comme je l'ai expliqué là, tout à l'heure, pour des raisons que j'ai expliquées, toute la correspondance de Molière a disparu, ces manuscrits, c'était normal, parce qu'au XVIIe siècle, lorsqu'on publiait une pièce, eh bien, elle était mise au rebut, lorsqu'on publiait une pièce, le manuscrit était mis au feu, et c'est le cas de tout le monde. Les seuls manuscrits qu'on a conservés, c'est des œuvres qui ne sont pas publiées. C'est comme ça qu'on a des mémoires.
Et pourquoi au feu, c'était...
Alors quand je dis au feu, on détruisait, quoi.
Ouais, mais c'était de la superstition.
Non, c'est parce que...
On pensait que ça n'avait plus de valeur.
Ça n'avait plus de valeur. La religion des papiers du grand homme apparaît à partir de la deuxième moitié du XVIIIe et explose au XIXe siècle. Mmh. Et là, les repentirs, la création, etc., tout ça, c'est à partir du XIXe siècle. Au XVIIe siècle, seul comptait l'impression. L'impression faisait foi et le reste, on jetait. Et c'est le cas pour Corneille et pour Racine aussi. Hein. Ça vaut pour absolument tout le monde. La seule morceau de pièce de Racine que l'on a, c'est une pièce qui devait s'appeler Iphigénie en Tauride. C'est un essai que Racine avait fait avant de passer à l'autre histoire d'Iphigénie, celle qu'on appelle Iphigénie à Aulis. Et il se trouve qu'on a un manuscrit parce qu'il s'est arrêté en cours de route. Il y a un premier acte et une première scène d'un deuxième acte en prose, puisqu'on écrivait en prose hein, avant de versifier. Déjà en partie dialogué, etc. C'est très intéressant parce qu'on voit comment travaillait un auteur qui passe pour le plus grand poète de théâtre du XVIIe siècle, qui est Racine, mais on s'aperçoit qu'en fait, il fabriquait un canevas en prose dans un premier temps. Mais on l'a conservé parce qu'il a abandonné son projet. Il l'a mis dans un tiroir. Et ses fils, parce que lui a eu la chance d'avoir ses fils, des fils absolument dans une adoration totale pour leur père, les ont conservés et c'est ainsi que c'est passé dans les archives. C'est resté. De Molière, il n'y a rien.
Il est bon d'aller tout doucement. Peut-être sans raison me suis-je en tête mis ces visions cornues et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Par ce portrait, enfin, dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc par nos souhaits. Ah, que vois-je, je meurs! Il n'est plus question de portrait à cet homme! Voici ma foi la chose en propos originale!
C'est pas trop boiteux, monsieur! Et votre mal, si vous sortez si tôt, vous pourrez bien vous reprendre!
Non, non! Je vous rends grâce autant qu'on puisse rendre de l'obligeant secours que vous m'avez prêté. La masse encore après lui fait civilité! Il m'aperçoit, voyons ce qu'il me pourra dire!
Ah! Non, c'est meute, et cet objet m'inspire. Mais je dois condamner cet injuste transport et n'imputer même au corrigueur de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme.
Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme.
Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est la biographie intellectuelle et créatrice de cet auteur à travers ça. Et réfléchissant sur la manière dont les œuvres s'enchaînent les unes dans les autres, une continuité biographique dans le rapport qu'il a à ses œuvres, comment les œuvres se succèdent et pour quelles raisons elles se succèdent, pourquoi il choisit tel sujet à tel moment, etc. etc. Voilà, donc comment on peut essayer d'établir une sorte de vérité de Molière au début du XXIe siècle.
Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien, et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien.